RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, ce dimanche 15 octobre, ce sera la fin officielle de la mission de l'ONU pour la stabilisation en Haïti, la MINUSTA, déployée lors des troubles politiques en 2004 après le départ du président Jean-Bertrand Aristide. Elle avait pour objectif d'aider Haïti à endiguer la violence et à retrouver une stabilité sociopolitique. Pourtant, le pays a été marqué ces deux dernières années par une grave crise électorale. Alors si dans d'autres domaines les progrès sont indéniables, la mission onusienne reste très contestée par les Haïtiens. MINUSTA, quel héritage après 13 ans de présence en Haïti? Grand reportage signé Stéphanie Schuller et Marc Intoff-Casimir.
Moi, c'est Michaud Jean-Auguste.
Je m'appelle Jean-Auguste Michaud. Mon papa était cultivateur. Il était dans son champ quand d'un coup, il n'a plus senti ses jambes, comme si ses forces le quittaient. C'est alors qu'a commencé la diarrhée. Nous l'avons emmené d'urgence au centre de soins. Je suis triste encore aujourd'hui parce que nous n'avions pas d'informations sur la maladie. Quand il est tombé malade, nous ne savions pas ce que c'était. Et c'est peut-être ça qui a causé son décès. Mon père est mort du choléra. C'était le vendredi 13 mai 2011.
Vendredi qui était 13 mai 2011.
On est ici à Mey. Bon, alors c'est ce camp-là où logeaient les Népalais.
Le contingent népalais de la MINUSTA.
De la MINUSTA. Et ici, on a deux rivières. Il y a la rivière La Thème et l'autre rivière là-bas, et qui sont des affluents du fleuve Artibonite.
Mario Joseph, avocat haïtien.
Et m'a fait procès contre elle, parce que je passe au bon doigt. C'est bien où tu es malade?
Six mois bébé.
Il faut quand même baptiser.
La fille, elle a eu le choléra?
Et le choléra. Cette fille, elle avait 6 mois quand elle était malade du choléra.
En novembre 2010.
2011, oui. Eh bien, vous voyez, les gens utilisaient la rivière pour laver ses linges.
Comme ils le font maintenant, en ce moment, ouais, les enfants se baignent.
Les enfants se baignent. La rivière passait exactement à côté du camp. Et les riverains disaient qu'on peut voir à l'œil nu que... ils déversaient leurs matières fécales, les vidanges, dans la rivière. Et il y a de l'autre côté un trou et il y a encore une autre rivière avec une pente assez raide. C'est-à-dire quand la pluie tombait là-bas, dans le trou, eh bien, l'eau du trou déversait vers la rivière. C'est-à-dire qu'il y a ces deux endroits-là d'où sortait le choléra.
Maître Marie-Joseph, quelle était la procédure que vous avez alors engagée en justice et quand?
J'ai été à Sodo, à Mirbalé, à Boukankaré, à Bokouzel, recruter les victimes et préparer leur dossier. Nous avons fait authentifier la signature des victimes et aussi nous cherchons les certificats médicaux. Et c'était le 3 novembre 2011 quand nous portons pour 5000 victimes la première vague de plaintes. Et après 15 mois, le système des Nations Unies disait que notre plainte était irrécevable et que les Nations Unies ont l'immunité. Ah bon, nous disons, l'immunité, ce n'est pas l'impunité. Vous devez payer pour cet acte criminel. Car les gens ont payé le prix. Il faut réparer.
Le choléra a été introduit par des casques bleus népalais en octobre 2010. Depuis, l'épidémie a touché plus de 800 000 Haïtiens et tué plus de 10 000 d'entre eux. Leurs familles doivent non seulement surmonter le deuil, mais aussi affronter les conséquences directes de ces décès, à l'instar de Jean-Auguste Michaud.
Nous sommes 9 enfants. Mon père était le chef de famille. Il nous aidait à mieux comprendre la vie et il faisait en sorte qu'on devienne des gens bien à l'avenir. Il payait notre formation. Depuis sa mort, nous avons beaucoup de mal. Mes frères, mes sœurs et moi ne pouvons plus aller à l'école. Tout ce qu'on souhaite, c'est obtenir un peu d'argent pour pouvoir continuer nos études. Si la MINUSTA nous accorde une compensation, il faut que celle-ci nous soit versée directement. Car si ça passe par l'État haïtien, ce sera à notre désavantage. On ne recevra rien du tout.
C'était chargé plus mal, nous ne pouvons jamais arriver jeune.
« Il a fallu attendre l'été 2016 pour que l'ONU reconnaisse sa responsabilité morale envers les victimes du choléra en Haïti et leur promette de l'aide. Mais celle-ci ne prendra probablement pas la forme de compensations individuelles, pourtant réclamées par les familles des victimes. Sandra Honoré, représentante spéciale de l'ONU en Haïti, a dirigé la MINUSTA ces quatre dernières années.
La nouvelle approche annoncée en décembre 2016 a évoqué un volet d'assistance matérielle aux communautés les plus affectées. Et l'accent a été mis également sur le fait que cette assistance matérielle devrait se concevoir en consultation avec les communautés. Depuis l'entrée en fonction du secrétaire général Guterres, il a demandé aux États membres de surseoir au retour de fonds non dépensés qui avaient été alloués à la MINUSTA pour l'exercice fiscal 2015-2016 pour précisément alimenter en ressources financières le fonds pour cette nouvelle approche. J'espère que la demande du secrétaire général aura davantage de réponses positives pour que l'organisation puisse être en mesure de continuer ce travail.
Si la MINUSTA quitte Haïti en laissant une plaie profonde pour près d'un million de victimes du choléra, les habitants sujets à la violence des gangs lui reconnaissent avoir contribué à la pacification de leur quartier.
Et nous sommes à Bois-Neuf, c'est un quartier de Cité Soleil.
Mais en 2006-2007, on ne pouvait pas y aller.
Non, c'était totalement impossible. C'était déclaré zone rouge. Zone rouge parce qu'il y avait beaucoup de cas de kidnapping, de violences, des gangs. Parce qu'il y avait des gangs qui contrôlaient cette zone à partir de cette période-là. Mais maintenant, c'est accessible.
Nous sommes là aujourd'hui sans aucune crainte.
Je suis Dieu-Sibon Pierre Mérité, je suis le coordonnateur du bureau régional de l'Ouest de la CVR. Réduction violence communautaire, c'est une section à l'intérieur de la MINUSTA. En 2004, le mandat que le Conseil de sécurité des Nations Unies nous a donné, c'est un mandat de désarmement, démobilisation et réinsertion. C'est-à-dire qu'il y a des groupes militaires en rébellion que on négocie avec les différents groupes. Mais arrivé ici, ce n'était pas la situation. La situation était liée de préférence avec les gangs, les groupes armés. Donc c'est pourquoi que c'est ici en Haïti qu'on a développé le programme Réduction violence communautaire, qui aujourd'hui est en train d'expérimenter dans d'autres missions Nations Unies à travers le monde.
Donc vous avez été un peu les précurseurs finalement.
Oui, nous sommes les pionniers en Haïti de l'expérience. Et là maintenant, nous sommes fiers parce que quand on a fait une analyse en 2007, on a pu comprendre que les violences sont liées avec la situation socio-économique des jeunes. Et ce programme nous a permis de comprendre qu'on peut lutter contre la violence à travers la création d'emplois, à travers la réinsertion socio-professionnelle des jeunes.
À Cité Soleil, cette section de la MINUSTA a mis en place un centre de formation professionnelle. Depuis 2012, plus de 700 jeunes de ce quartier défavorisé y ont appris un métier. Nadine et Lydia Bélange ont suivi une formation en pâtisserie et produisent depuis beignets, petits gâteaux et cookies. Une activité économique dont ne bénéficie pas seulement leur propre famille.
Il y a plein de jeunes qui ont commencé à vendre nos pâtisseries. Avec d'autres, j'ai initié un cours d'été. Je leur ai appris quelques techniques de fabrication. D'autres encore vendent nos petits gâteaux dans leurs écoles. Cela leur permet d'avoir un peu d'argent pour payer leurs courses et ça représente quand même un certain changement chez eux.
Moi, c'est Maurice Armiel.
Moi, je m'appelle Samuel Maurice. Ici, on est devant une porte faite en profilé d'un pouce et d'une épaisseur d'un 16e. C'est moi qui l'ai fabriquée grâce à la formation que j'ai reçue. Avant, je ne faisais pas grand-chose. Un ami me disait toujours qu'il était temps pour moi de passer à autre chose, de devenir quelqu'un de bien. Si aujourd'hui, je réussis à gagner quelques billets, c'est grâce à mon travail.
Les jeunes qui ne peuvent pas travailler ici, ils sont en danger selon vous ?
Oui.
Oui, ils sont en danger. Ceux qui ne travaillent pas sont très vite pris pour cible quand des patrouilles de police débarquent dans le quartier. Si les policiers voient des jeunes comme ceux qui jouent au foot là-bas, ils peuvent les interpeller, les frapper, les gifler et les accuser d'être des voyous. Alors que si ces jeunes étaient en train de travailler, les policiers les prendraient pour des gens sérieux.
Est-ce que vous avez l'impression qu'en fait, du fait que vous travaillez, vous avez une certaine influence ou une certaine fonction d'exemple pour les autres ici dans le quartier ?
Oui,
et je les encourage. Quand je travaille, ils sont nombreux à m'entourer. Ils veulent faire comme moi et ils me surnomment « propre ».
Ça permet aux jeunes de comprendre que vous pouvez gagner votre vie sans utiliser le kidnapping, etc. Vous pouvez gagner votre vie sans la violence.
Sans les armes.
Explique Dieu-si-bon Pierre Mérité, le coordinateur du programme réduction des violences communautaires de la MINUSTAH.
La MINUSTAH va partir, le bataillon militaire qui était à Cité-Soleil est déjà parti, mais la communauté fonctionne. Il y a des acquis qu'on doit garder. Les autorités locales qui sont officiellement élues au niveau des communautés, c'est leur responsabilité de continuer le processus de paix. Normalement, la MINUSTAH n'était pas là d'une façon à vie. Aujourd'hui, elle va partir. Nous, les Haïtiens, nous devons continuer à progresser, à garder ce sentiment de paix-là.
À 250 km de là, la nuit tombe quand nous arrivons devant la petite case entourée de champs, quelque part dans le département du Sud. Assises sur la galerie, deux mères haïtiennes, qui souhaitent garder l'anonymat, regardent leur fils jouer dans la pénombre.
Je l'ai rencontré dans la rue. Il m'a abordé et m'a demandé s'il pouvait venir chez moi. C'était en février 2005. Nous avons passé 4 ans ensemble. Je suis tombée enceinte. Il a dit à mes parents qu'il voulait vivre avec moi. Nous sommes restés ensemble les 6 premiers mois de ma grossesse, puisqu'il était encore stationné ici. Il savait donc que j'étais enceinte. Il est parti en septembre. J'ai accouché en décembre. Après mon accouchement, il ne m'appelait qu'une seule fois. C'était après le tremblement de terre en janvier 2010. Il voulait savoir comment nous allions, moi et l'enfant. Depuis, il n'a plus jamais appelé.
Après ça, il va jamais les manquer. Moi, mais avec le bébé à 16 ans.
J'avais 16 ans quand on s'est mis ensemble. Pour mes 17 ans, il avait organisé une fête en mon honneur. À ce moment-là, j'étais enceinte, mais je ne le savais pas encore. Je fêtais mes 17 ans le 8 janvier et j'étais déjà enceinte de 1 mois. Avec le temps, la nouvelle s'est répandue. Comme la base de la MINUSTAH était située tout près de chez moi, le responsable a été mis au courant. J'étais à 5 mois de grossesse quand ils l'ont mis aux arrêts parce que j'étais encore mineure. Il a été incarcéré en mai et renvoyé dans son pays en juin.
En mois de juin, je vais y aller.
Comment est venue chez vous l'idée de faire une démarche en justice ?
Mon fils est un enfant comme les autres. Il faut qu'il aille à l'école, voit un médecin, mange à sa faim et un toit. Je souhaite que la MINUSTAH prenne ses responsabilités vis-à-vis de mon enfant.
En février 2014, la MINUSTAH nous a fait venir avec nos enfants à Port-au-Prince pour faire des prélèvements d'ADN. Nous étions assez nombreux. 2 militaires uruguayens étaient venus exprès en Haïti pour récupérer les échantillons et les rapporter chez eux. Quelque temps après, la MINUSTAH nous a dit que les résultats des tests étaient positifs, mais sans nous fournir de preuves palpables le confirmant. Comme le temps presse, j'aimerais que la MINUSTAH nous appelle pour nous remettre les résultats des tests ADN et pour nous dédommager, parce qu'une fois partis, on n'aura plus de nouvelles d'eux.
Le destin de ces deux Haïtiennes et de leurs enfants, nés de rapport avec des casques bleus, n'est pas un cas isolé, reconnaît la représentante spéciale de l'ONU en Haïti, Sandra Honoré.
Toute allégation d'abus ou d'exploitation sexuelle est une allégation que la MINUSTAH prend très au sérieux. Cette allégation fait l'objet de communications avec l'État originaire du casque bleu en question. Et étant donné les accords légaux entre l'organisation et les pays contributeurs de troupes, l'organisation est obligée de demander à l'État contributeur de se servir de son cadre juridique pour assurer que la justice soit rendue, pour assurer que la pension alimentaire soit établie pour les enfants nés de ces cas d'abus et d'exploitation sexuelle. Parfois, le processus prend un peu plus longtemps que les personnes intéressées espèrent, mais l'organisation continue à poursuivre les cas avec les États d'où les personnes responsables sont originaires.
Madame la représentante, est-ce que même après la fin de la MINUSTAH, vous avez la possibilité d'assurer que le processus suit son cours et justice soit rendue ?
La fermeture de la MINUSTAH ne veut pas dire et n'implique pas la fin de l'attention sur ces cas. La mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti une mission de succession, la MINUJUST aura cette facilité de continuer à traiter les cas que vous avez évoqués.
Les derniers casques bleus ont quitté Haïti cette semaine. Ils emportent avec eux ce que les Haïtiens ressentent jusqu'à nouvel ordre comme une impunité. Mais le départ de la MINUSTA ne signifie pas la fin de l'ONU en Haïti. Dans le cadre de la nouvelle mission onusienne, sa composante civile, l'ONPOL, reste dans le pays avec des effectifs réduits. Cette police onusienne avait pour mission de soutenir et de développer la PNH, la police nationale haïtienne. 13 ans après l'arrivée de l'ONPOL en Haïti, son commandant, le général Georges-Pierre Monchotte, se dit satisfait des progrès accomplis.
Le mandat de la mission de stabilisation a apporté ses fruits puisque le pays est stabilisé. Le niveau de sécurité globalement satisfaisant si on compare avec d'autres territoires, même des Caraïbes. S'agissant de la police, l'évolution est je dirais, radicale. En 2004, il n'y avait pas un grand nombre de policiers dans cette force qui n'était pas du tout d'ailleurs à la mesure d'un pays.
Vous pouvez nous rappeler les chiffres ?
C'était de l'ordre de 4000 personnes, mais pas forcément bien formées.
Pour une population
de... Pour une population qui est de l'ordre aujourd'hui de 12 millions d'habitants, je dirais une dizaine de millions d'habitants à cette époque-là, ou 9. Aujourd'hui, vous avez presque 15 000 policiers. La MINUSTA a procédé à la formation de plus de 10 000. Tout ça, c'est une progression de fond, une progression lente. On progresse également dans le transfert de capacités.
Le rôle de la UNPOL, la police internationale, aux côtés de la PNH, c'était une mission de colocation.
Sagui Tchaté Jérôme, chef de l'UNPOL pour le département de l'Ouest.
C'est-à-dire qu'il était question pour les policiers internationaux de transmettre leur expérience à leur homologue PNH.
Est-ce que vous pouvez prendre un exemple concret ?
Oui, c'est par exemple comment faire des checkpoints, comment organiser une fouille d'un véhicule.
Devant le commissariat de Martisson, un quartier défavorisé de Port-au-Prince, une voiture de la PNH s'apprête à partir en patrouille, suivie de deux véhicules de l'UNPOL.
Le gilet, le gilet.
Le gilet, on a machine ça.
Le gilet, c'est nous, un carcou.
On met le gilet.
On met le gilet.
Ok.
Nous-mêmes, la police, dans Martisson.
Nous, les policiers du sous-commissariat de Martissant, sommes toujours sur nos gardes quand on patrouille dans le quartier de la 5e avenue. Il arrive qu'on se fasse attaquer par des délinquants qui peuvent surgir n'importe où, à n'importe quel moment. C'est pour cela qu'on ne part jamais sans gilet pare-balles en patrouille. Mais là, jusqu'à présent, RAS, rien à signaler. Quand la population nous voit patrouiller, elle a confiance. Elle compte sur nous parce que ce quartier est très difficile pour les habitants aussi. Une tension peut éclater à n'importe quel moment. On ne patrouille pas tous les jours avec la MINUSTA, mais les patrouilles conjointes ont toujours porté leurs fruits. En fait, quand les agents de l'UNPOL sont là, on n'a pas grand-chose à faire parce qu'ils comblent certaines de nos faiblesses.
Pour ces policiers haïtiens, c'est l'une des dernières patrouilles accompagnées par leurs collègues de l'UNPOL. À partir du 16 octobre, le fonctionnement sera différent.
Aujourd'hui, avec la diminution des effectifs de la MINUSTA, il ne sera plus question pour la police internationale d'aller faire les patrouilles avec les policiers sur le terrain. Cette fois-ci, ce n'est plus question de cela. Mais il sera question pour nous de fournir une expertise au niveau des cadres de la PNH, axée sur le commandement, sur la gestion, sur la planification.
Toujours en patrouille à Martissant, les agents de la police nationale haïtienne s'interrogent sur l'avenir, maintenant qu'ils vont devoir assumer seuls la sécurité de leurs concitoyens.
La population coopère maintenant avec la PNH. Elle nous indique des endroits où se cachent les délinquants, ce qui nous permet de planifier d'abord une intervention, puis de la mener, parfois accompagnée de la MINUSTA pour éviter des dérapages. C'est de la MINUSTA qu'on peur les délinquants. Il y a quand même une certaine tristesse chez nous, parce que la MINUSTA nous a beaucoup aidés, notamment en technique d'opération et d'intervention. Après le départ de la MINUSTA, nous allons faire de notre mieux.
Mais au départ de la MINUSTA, on va faire de mieux. Petit crasse-temps que j'ai dans la police moi-même, j'ai à peu près 12 ans.
Vu les années que j'ai passées au sein de la PNH, bientôt 12 ans, je me sens mûr et capable d'assumer. Je ne sais pas ce qu'il en est des promotions à venir, mais quand je regarde le travail des collègues dans la rue, je crois qu'ils sont prêts. La police nationale haïtienne est prête. Nous sommes prêts. Cela étant dit, le départ de la MINUSTA laissera quand même un vide.
Mais quand même, c'est un vide.
C'était MINUSTA, quel héritage après 13 ans de présence en Haïti ? Un grand reportage de Stéphanie Schuller et Makintoff Casimir, à la réalisation Sandrine Straram.